Cours de physique MP3 proposé par physagrec.fr. Chapitre 5, noyaux, masse et énergie. Nous allons voir l'équivalence masse-énergie, la relation d'Einstein, énergie de masse. Les scientifiques remarquent que la masse de deux protons et de neutrons libres est supérieure à la masse de ces quatre nucléons associés dans le noyau. C'est à partir de là qu'Einstein, en 1905, dit qu'un système au repos possède une énergie due à sa masse, appelée énergie de masse. Elle est définie par E égale mc2. Avec E, l'énergie de masse en joules, m, la masse en kilos, et c, la vitesse de la lumière dans le vide en mètres par seconde. C est égal environ à 3,0 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Une conséquence importante de cette relation et qui va nous intéresser, c'est que quand la masse d'un système va varier, alors son énergie va varier. Ainsi, on peut écrire delta E égale delta m fois c2. Donc si la masse d'un système diminue, son énergie diminue et ce système fournit ainsi de l'énergie au milieu extérieur. Une unité d'énergie mieux adaptée. Dans le domaine de la physique nucléaire, on s'intéresse davantage à une particule plutôt qu'à un ensemble de particules. Ainsi, les énergies que nous calculons, comme l'énergie de masse d'un électron, est très petite. Nous allons donc utiliser une autre unité d'énergie plus adaptée à l'échelle microscopique que l'on appelle l'électronvolt. Un électronvolt égale 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Un électronvolt représente donc l'énergie acquise par un électron qui serait soumis à une différence de potentiel de 1 volt. Défaut de masse d'un noyau et énergie de liaison. Petit a, défaut de masse. Comme nous l'avons dit plus haut, en mesurant la masse des noyaux au repos et celle des nucléons, les scientifiques se sont aperçus que la masse d'un noyau est toujours inférieure à la somme des masses des nucléons qui le composent. La différence de masse est appelée défaut de masse, noté delta m, et se calcule donc comme suit. Pour un noyau AZX, delta m égale z fois masse du proton plus a moins z fois masse du neutron moins masse du noyau. Et cette différence de masse est positive. Petit b, énergie de liaison, elle correspond à l'énergie qu'il faut fournir à un noyau au repos pour le dissocier en nucléons isolés et immobiles. Comme on l'a vu avec l'équivalence masse-énergie, l'énergie de liaison d'un noyau est en rapport avec son défaut de masse. EL égale delta m fois c2. Cette énergie est donc positive puisqu'elle est reçue par le système considéré, en l'occurrence le noyau. Courbe d'Aston et énergie de liaison par nucléon. La courbe d'Aston est une courbe qui permet de comparer la stabilité des différents noyaux atomiques. Par commodité, comme dans un diagramme énergétique, on s'est arrangé pour que les noyaux les plus stables se situent dans la partie basse de la courbe. La courbe d'Aston est donc la représentation de moins EL sur A égale F de A, en fonction de A. Alors, dans cette expression, EL représente l'énergie de liaison par nucléon. Elle est égale à l'énergie de liaison du noyau divisée par le nombre de nucléons présents dans ce noyau. On l'exprimera donc en MeV par nucléon. Cette courbe d'Aston va nous permettre de parler des réactions nucléaires de fission et de fusion. En effet, selon la position des noyaux instables sur la courbe d'Aston, on peut savoir comment ils vont évoluer. Les noyaux légers à gauche de la courbe vont évoluer par fusion, alors que les noyaux lourds à droite de la courbe vont plutôt évoluer par fission nucléaire. Propriétés des réactions de fission et de fusion. Les réactions nucléaires de fusion et de fission sont qualifiées de réactions provoquées. Une réaction nucléaire est provoquée lorsqu'un noyau projectile frappe un noyau cible et donne naissance à deux nouveaux noyaux. Les réactions nucléaires de fusion et de fission doivent vérifier les lois de conservation comme toute réaction nucléaire. Conservation du nombre de masses, donc du nombre de nucléons. Conservation du numéro atomique, donc du nombre de protons. Voyons plus en détail la réaction de fission nucléaire. Définition, elle se produit lors de la rencontre d'un neutron, énergie cinétique égale à 0,1 MeV, dit neutron thermique, avec un noyau fissile tel l'uranium-235, ce qui provoque la naissance de deux noyaux plus légers. La première fission de l'uranium-235 a été obtenue par Frédéric et Irène Joliot-Curie. Conditions d'obtention et application de cette fission. Le fait que ce soit un neutron qui initie la réaction est intéressant car il n'y a pas de répulsion lors de la rencontre entre le neutron, non chargé, et le noyau d'uranium. Une réaction de fission va donner naissance à des noyaux fils mais aussi à des neutrons, ceux-ci pouvant aller rencontrer d'autres noyaux d'uranium. On obtient alors une réaction en chaîne. On peut alors vouloir que cette réaction en chaîne s'emballe, on obtient alors une bombe atomique A, ou bien on veut la contrôler pour produire une quantité d'énergie souhaitée, dans les centrales nucléaires par exemple. Un exemple de réaction de fission nucléaire est celle de l'uranium-235, donc qui, en réaction avec un neutron lent, va donner un noyau de strontium-94, un noyau de xénon-140 et deux neutrons lents. Attention, plusieurs de réactions de fission sont possibles pour un seul noyau d'uranium-235. Voyons maintenant en détail la réaction de fusion nucléaire. Définition. Pour avoir une fusion nucléaire, il faut que deux noyaux légers s'unissent pour donner naissance à un noyau plus lourd. Conditions d'obtention et application. Ces noyaux légers sont cette fois-ci composés de neutrons et de protons. Ainsi, il leur faut une très grande énergie pour vaincre les forces de répulsion. On porte alors le milieu à très haute température, 10 puissance 8 Kelvin environ. En conséquence, la réaction de fusion est appelée réaction thermonucléaire. Une remarque, à ces températures très élevées, on dit que la matière est à l'état de plasma. On a alors un gaz d'électrons et de noyaux atomiques séparés. Les réactions de fusion se font naturellement dans les étoiles. Des noyaux d'hydrogène vont fusionner en plusieurs étapes pour donner des noyaux d'hélium. On crée avec cette réaction des bombes thermonucléaires, bombes H. C'est alors la fission qui permet d'engendrer la haute température et donc la fusion. On cherche depuis des années à contrôler la fusion pour s'en servir dans les réacteurs nucléaires. La difficulté réside dans le confinement du plasma. Un exemple de réaction, la fission la plus courante est celle entre un noyau de deutérium et un noyau de tritium, qui sont deux isotopes de l'hydrogène. On obtient alors un noyau d'hélium et un neutron. Intérêt de ce chapitre, donc d'avoir d'abord parlé d'équivalence masse-énergie et différents calculs d'énergie, puis des réactions de fission et de fusion, nous permet en fait de faire des bilans d'énergie sur les réactions nucléaires de fission et de fusion, et de voir que ces réactions vont nous apporter des quantités d'énergie très grandes que l'on va utiliser, donc soit pour faire des bombes atomiques, soit pour créer de l'énergie dans les centrales nucléaires.